.NET 9 est maintenant disponible depuis la mi-novembre. Nous allons voir donc en trois parties quelles sont les nouveautés de ce framework de Microsoft. On va voir dans une première partie les nouveautés de Blazor, ASP.NET, de Microsoft Aspire, et également la grosse question, faut-il passer à .NET 9 ? Et en deuxième partie, nous allons nous consacrer à tout ce qui est UI de clients lourds avec MAUI, WPF et WinUI. Et enfin, la dernière partie va être consacrée aux nouveautés du langage C# et de la Base Class Library. Allez, c'est parti! Bien, et ben bonjour et bienvenue pour ce 58e épisode de DevDev.NET. Alors, au mois de novembre, on a eu la nouvelle version de .NET, .NET 11, qui est parue. Et donc, on va faire un petit bilan
non, 9.
De 9. Oui, qu'est-ce que je dis ?
9. .NET 11. T'as 2 ans d'avance.
Ouais. Si, oui. Donc .NET 9 qui vient de paraître. Donc on va faire le tour de toutes les nouveautés, aussi bien au niveau ASP.NET, C#, Aspire, WinUI, MAUI, C#, et aussi la base library. Donc on va voir un petit peu tout ça, on fera sans doute en 2 épisodes. Et donc pour faire ce bilan de .NET 9, j'ai comme invité aujourd'hui Clément Sagnier. Bonjour.
Bonjour.
Alors tu es développeur freelance, dans quelle région d'ailleurs ?
Moi je suis normand.
Normand, d'accord. Donc développeur .NET normand, qui a écrit également des articles dans le programmé. Il y a eu deux articles sur Blazor dernièrement. Donc bah, tu es à point pour nous présenter tout ça. On a également Jérémy Janson, bonjour.
Bonjour.
Microsoft MVP, donc depuis je ne sais plus combien de temps, j'ai perdu mes notes, c'est pour ça que
2010.
Depuis 2010. Oui. Et enfin, Laurent Campé, qui est encore plus vieux, lui, bonjour.
Salut Richard, salut tout le monde.
Notre Yoda préféré, donc lui aussi, Microsoft MVP, catégorie développeur technologie. Bien, on va attaquer avec ASP.NET et Blazor, savoir un petit peu quelles sont les nouveautés de ce côté-là. Donc Clément, tu nous as préparé un petit truc là-dessus.
Tout à fait. Donc du coup, du côté de Blazor ASP.NET, on va avoir quelques améliorations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle version de .NET, c'est une short-term support. Donc, du coup, c'est là où on a plutôt du peaufinement que vraiment des grandes améliorations. Mais dans cette version, on a quand même quelques belles améliorations. La première amélioration, elle arrive notamment en .NET 8, où tout a été revu, notamment sur tout ce qui va être rendering, où on va pouvoir mélanger du Blazor Server et du Blazor WebAssembly. Et aussi en .NET 8, on va pouvoir faire du static server. Tout ça a été un peu mélangé. Et dans cette version de .NET 9, on va avoir des nouvelles API qui vont nous permettre de savoir un peu dans quel contexte le composant ou la page est en train de s'exécuter. Mm-hmm. Et on va pouvoir savoir si on est dans un contexte statique, serveur ou WebAssembly. Et on va pouvoir aussi savoir, puisqu'il y a vraiment deux modes, on a vraiment un mode interactif qui comprend Blazor Server et WebAssembly, et un mode non interactif qui est plutôt du statique, qui lui va vraiment faire que du HTML. Et donc, dans ces modes-là, on va pouvoir moduler, et on a une nouvelle classe qui s'appelle RendererInfo, qu'on va pouvoir checker dans son code pour savoir dans quelle application, enfin dans quel rendering on est, contexte on est, et si on est interactif ou pas. Et ça va être notamment important, puisqu'en .NET 8, ils ont apporté un mode qui est somme toute assez fantastique, c'est le render mode qui est auto, qui va permettre de mixer un peu entre du statique, du serveur et de l'interactive WebAssembly. Et du coup, dans ces cas-là, on va pouvoir savoir quand la page va s'ouvrir, dans quel mode on est, est-ce qu'on est en statique. Donc, c'est-à-dire que la page va s'ouvrir très rapidement en statique, puis on va passer en mode serveur la première fois. Donc ça, c'est donc on va pouvoir savoir dans quel mode on est. Et la deuxième fois qu'on va retourner sur le composant, et ben dans ces cas-là, on va aller directement en mode WebAssembly, puisqu'on a téléchargé entre-temps le composant directement sur le client. Donc c'est vraiment un mode qui va permettre d'accélérer le rendu, mais il va falloir faire attention dans savoir dans quel mode on est, interactif ou non, pour essayer d'aller chercher des données ou ce genre de choses. Donc c'est à ça que va servir cette petite amélioration dans Blazor. Autre amélioration, quelque chose qui, quand on fait du Blazor serveur depuis longtemps, on a souvent des déconnexions. Quelque chose qui n'est pas toujours beau à l'écran. C'est vraiment, il faut appuyer sur F5 si on veut se reconnecter, c'est pas automatique. Et ben maintenant on va être .NET 9, c'est vraiment la grosse amélioration, on va dire, c'est qu'on a quelque chose qui est totalement intégré dans Blazor, et on va avoir une reconnexion soit immédiate si on peut, soit vraiment un système un peu de back-off où on va calculer toutes les secondes, et puis après toutes les 2 secondes, toutes les 5 secondes, et ce qui va permettre au final d'avoir une expérience beaucoup plus sympathique en cas de coupure avec Blazor serveur, et surtout quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que dès qu'il va retrouver la connexion, hop, il va se remettre à jour et on va pouvoir repartir sur l'application, alors qu'avant, des fois, il fallait appuyer sur refresh ou ce genre de choses. C'était pas toujours évident. C'est vrai que on pouvait le customiser, mais c'était pas encore extraordinaire. Et là, c'est vrai qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel, on va dire, dans certaines applications.
Ouais, parce que c'est vrai que Madame Michu, pour lui expliquer qu'il faut appuyer sur F5 pour rafraîchir la page, elle a dit
voilà,
Madame Michu.
C'était un peu compliqué dans des applications de gestion, ce genre de choses, alors que là, allez, on va pouvoir customiser un peu le rendu aussi, hein, HTML qui est fait. Donc comme ça va faire quelque chose de beaucoup plus abouti et plus facile pour les utilisateurs.
Une petite question là, justement, en parlant de Blazor, est-ce que, là je pose la question à tout le monde, est-ce que vous connaissez un site grand public, je veux dire avec beaucoup de trafic, qui utilise Blazor?
Pas du tout. Non, mais je crois que ça a été il y en a quelques-uns qui ont été présentés lors de la .NET Conf.
C'est une colle que je pose.
Ouais. c'est un peu une colle. Je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment fait pour du grand public. Je pense que c'est beaucoup d'applications internes de gestion où là, on va vraiment pouvoir bénéficier de toute la puissance du .NET et de C Sharp. Alors que bon, pour vraiment du grand public, je pense que ça peut exister, mais.
J'ai toujours pensé que c'était plus approprié pour les applicatifs. D'entreprise en interne, effectivement, plutôt que pour du grand public, quoi.
Oui, donc ça marche très bien, d'ailleurs.
Oui, mais la solution grand public chez Microsoft, c'est encore du Razor, quoi, si je ne m'abuse. Alors, Jérémy, faire comme ça en podcast, ça marche pas.
Je m'attendais à ce que Laurent, effectivement, saute dessus, donc je le laissais sauter. Je pense que c'est ça. Alors, le souci, c'est qu'en fait, ils sont toujours pas clairs au niveau de la doc. Hein. Au niveau de la documentation, on dit clairement qu'aujourd'hui, tu démarres une application .NET Web, tu es censé aller sur Blazor Server.
Ouais.
Ils le présentent comme ça, d'ailleurs. Donc, je suis toujours un petit peu gêné par la documentation à ce niveau-là. Ça fait 1 ou 2 ans, je crois, qu'elle a changé. Pour dire qu'MVC n'était plus le chemin conseillé. Mm-hmm. Alors qu'on est tous d'accord que pour des pages, pour du web, pour du, on va dire, du semi-statique, MVC, ça marche très bien. Enfin, moi, j'ai du MVC, ça consomme rien en plus.
Ouais.
Ça consomme rien sur le réseau.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est un peu pour ça aussi qu'ils ont essayé de faire une réunification en se disant, bon, bah, au moins, on va faire du MVC et du statique. Et du coup, ce qui va permettre éventuellement de faire un mix des deux, mais est-ce que vraiment ça va prendre au niveau des devs qui ont l'habitude de faire de la ASP.NET MVC? Pas sûr.
Wait and see.
Tout à fait. Tout à fait.
Pour la suite, Clément.
Et donc pour la suite, donc on a pas, effectivement, hein, on a parlé un peu de ces améliorations, notamment pour les pages statiques. Et donc une autre amélioration qu'ils ont apportée dans Blazor en .NET 9, c'est la facilité en fait l'ajout de pages statiques dans Blazor quand on utilise la partie interactive globale. C'est-à-dire que quand on configure son projet en Blazor, on a deux modes interactifs. Soit on le fait global pour l'application, en disant bah, tout va être en Blazor Server, tout va être en Blazor WebAssembly, ou alors en .NET 8, on pouvait aussi choisir par composant. Chaque composant a le droit d'avoir son propre rendu. On peut faire un composant en Blazor Server et puis un autre en WebAssembly, suivant ce qu'on a besoin de faire. S'il y a besoin d'avoir quelque chose beaucoup plus proche du client avec une bonne expérience, ben on va choisir le WebAssembly et puis sinon le serveur. Mais souvent, dans la plupart des cas, on faisait du global, on choisissait le serveur et ça fonctionne très bien. Et bien en fait, aujourd'hui, on va pouvoir ajouter un nouveau attribut qui s'appelle xCloud from Interactive Routing, qui va permettre de sortir de l'interactivité de Blazor Server et d'avoir vraiment une page purement HTML qui va s'appliquer si on a besoin de faire de la documentation, par exemple. Pour une application, on n'a pas forcément envie de passer par le routing de Blazor, mais vraiment quelque chose d'HTML très simple. Et du coup, on va pouvoir exclure ça du routing. Alors, il faut juste faire attention, c'est que, étant donné qu'on fait ça, on sort du routing interactif. Donc, du coup, il y a une sorte de rafraîchissement de la page qu'on n'a pas quand on reste en Blazor. Hein. C'est l'objectif, c'est de ne pas avoir cet effet rafraîchissement. Mais là, vu qu'on sort un peu de l'interactivité de Blazor, bah, du coup, on a ce rafraîchissement. Mais dans des cas très précis, comme de la doc ou d'autres choses, on peut exclure. Et ça, forcément, ça va beaucoup plus vite. On passe du HTML pur et simple.
D'accord.
Donc voilà pour le statique, et on a une autre chose sur le statique aussi, c'est la mise en place de nouveaux algorithmes de compression de tout ce qui va être fichier statique, les images ou ce genre de choses. On va avoir une amélioration, un changement d'algorithme qui va permettre, donc d'après les chiffres, je crois, de gagner 60% de bande passante. Au niveau compression, et du coup qui va permettre d'accélérer un peu l'accès aux fichiers statiques comme les fichiers CSS, les fichiers, les images ou ce genre de choses, et du coup ça va accélérer un peu aussi cette problématique que certains pouvaient avoir avec des fichiers un peu trop lourds ou ce genre de choses. Et ça, c'est très important parce que on va aussi pouvoir l'une des problématiques aussi qu'on avait dans Blazor, c'est à chaque fois qu'on changeait, par exemple, quelque chose dans un fichier CSS, notamment en WebAssembly, on avait des fois du mal à recharger la version pour qu'il puisse prendre la dernière version du fichier CSS. C'était pas toujours... il y a toujours avec le cache serveur, il y avait toujours des problématiques. Et donc, du coup, là, ils se sont appuyés donc, sur des... sur du map static assets, ce qui va permettre de gérer finalement construire les noms de fichiers avec le hash de ce qui contient de ce que le fichier contient, ce qui permet au final d'avoir des versions totalement uniques. Vous changez une ligne de code, bah, du coup ça va changer le hash, donc du coup quand vous allez recharger l'application, bah, il va forcément se dire il va falloir que je recharge. Du coup, je vais plus rester avec dans le cache, parce que sinon, il fallait faire V1, V2, ou trouver il y avait des systèmes qui existaient, voilà, des petites astuces qui existaient pour recharger. Et ben là, au moins, c'est automatique. Et c'est vrai que ça va permettre de faciliter un peu la vie.
Jérémy, tu voulais dire quelque chose?
Une petite question, parce que moi, quand j'avais lu le doc, c'est bien ce qui me semblait. Donc, j'avais bien saisi sa deuxième partie, ce qui me laissait comprendre que la première, liée aux optimisations par rapport au delivery, tout ce qui est CSS, concernait essentiellement tout ce qui était fichier qui était loadé par Blazor. C'est-à-dire que les gens qui font un petit peu un mix, c'est-à-dire qui gèrent leur petit framework web, qui intègrent leur CSS, leur script et autres, en plus de Blazor, ne sont pas impactés par ces nouveautés. Moi, c'est la compréhension que j'en ai eue.
Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Il hein. Faut vraiment être dans Blazor. Et, notamment, il y avait une directive qui était Use Static Files, qu'il faut remplacer par Map Static Asset pour justement bénéficier de ces améliorations. Mais effectivement, il faut rester dans Blazor. Et du coup, c'est vraiment une optimisation sur Blazor et la manière dont fonctionne Blazor. Et je crois que ça doit être 60% de gain de perf sur des fichiers, donc c'est pas négligeable hein, quand on veut loader des grosses applications.
D'accord. Une question qui est à part. Côté WebAssembly, là, le runtime, il a diminué en taille. Moi, quand je me suis intéressé à Blazor vraiment au tout début, là, on avait plusieurs mégas à télécharger à chaque fois. Maintenant, il y a eu des optimisations par l'équipe Mono qui a été faite ou...
Alors, je ne sais pas sur la version .NET 9. Je sais que les améliorations, elles ont été faites depuis .NET 6 régulièrement. Mais je ne crois pas qu'en .NET 9, il y a eu des améliorations, des modifications sur le runtime. Je pense que... Mais ça vaut le coup de creuser, effectivement. Moi, je l'ai pas, je sais pas si... Laurent ou Jérémy, vous avez entendu parler lors des .NET Conf, mais je crois que d'habitude, ils le mettent en avant, mais... Voilà.
Ouais, mais ça me fait penser à la petite histoire du... c'était Silverline, je crois, à l'époque, il fallait tout prix que ça tienne sur une disquette. C'était la petite blague à l'époque, je crois. Hein.
Ouais.
Bah, du coup, si ça tient sur la disquette...
Quelle disquette
Ouais, c'était
trois poussées de
l'époque. Un 2, un 4.
Sinon, moi j'avais une autre question. Au début, il parle aussi de faire un static site generator. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose là-dessus? Parce que ça fait un moment qu'il y a des nouvelles versions et puis on n'en entend plus parler.
Ouais, mais pour .NET 8, on en a parlé, effectivement, on n'a pas vu la suite. Moi, c'est l'histoire de l'histoire comme toi.
Je crois que c'est resté dans les cartons pour l'instant, donc. Okay. Peut-être pas assez mature pour une version 9 à avoir en .NET 10 s'il y a des améliorations dans ce sens-là.
Il y a un Laurent qui voudrait changer son blog.
Exactement.
Il est très statique en ce moment, Laurent.
Non, mais c'est vrai que ça pourrait encore améliorer bien plus les performances, notamment de tout ce qui est statique, hein, ça c'est sûr. Autre amélioration sur l'authentification. Alors, ce qui a été fait dans .NET 9, ça va être surtout la facilité d'ajout d'authentification. Ça, c'est ce qui a été annoncé, notamment dans tout ce qui va être Web App Existence pour éviter de d'écrire ou de réécrire du code. Et la manière dont il y a une interop entre côté serveur et WebAssembly, puisque maintenant on a un mix entre les deux sur Blazor, bah, du coup, forcément, il faut que l'authentification suive. Et il y a des améliorations qui ont été faites dessus pour que les pré-rendus soient beaucoup plus simples, que l'authentification puisse passer d'un côté serveur avec du WebAssembly, sachant qu'on n'utilise pas du tout les mêmes technos. Donc, forcément, on peut avoir des déconnexions à ce moment-là, quoi. Donc, ça a été quelque chose qui a été ajouté. Et autre ajout aussi dans .NET 9. Alors, ça peut paraître un peu anodin, mais du coup, maintenant, quand on fait du code behind, on peut avoir un constructeur. Ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, il fallait faire du inject ou utiliser l'attribut. Maintenant, on peut directement faire un constructeur en code behind et faire son injection de dépendance dedans.
D'accord.
J'avoue que je...
Oui.
Ouais, c'était sur l'authentification, parce que le constructeur, je suis pas sûr que maintenant que les gens ont pris l'habitude de faire des composants, ils vont l'utiliser. Je pense que c'est un peu le problème, hein. On en est tous là, on a pris une habitude, donc ça va être compliqué. Non, moi j'étais plus sur l'authentification, il y a un petit passage aussi qu'ils ont ajouté. Pour moi, en fait, c'est la seule chose qu'a fait Lilt quand j'ai vu Blazor et ASP.NET, c'est OpenID Connect Push. Ce petit mot, qui n'est pas grand-chose, quand même très compliqué... signifie qu'on va avoir un OpenID Connect maintenant, on va pouvoir renforcer la sécurité où le fournisseur d'identité, en fait, quand nous on fait l'échange, hein, pour faire simple, tout se faisait jusqu'ici entre le fournisseur d'identité, le navigateur et renvoyer de l'information vers notre application. Là, en fait, le fournisseur d'identité, quand une personne va s'authentifier, le fournisseur va aussi envoyer une information à notre application. Donc, ça, en termes de sécurité, ça va pouvoir être sympa, on va pouvoir imaginer des scénarios plus intéressants. Et c'est une chose que je n'avais pas du tout vu passer dans l'année. Je l'ai découvert dans la liste des nouveautés. Je trouve ça super sympa. Non,
tout à fait. Tout à fait.
OK. What else?
Et puis, alors, concernant Blazor, on a aussi une avancée sur tout ce qui va être compression WebSocket, notamment pour Blazor Server, qui va permettre de télécharger plus facilement et plus rapidement les composants Blazor Server. Et donc ça, il y a une amélioration qui a été faite là-dessus. Et enfin, voilà, il y a eu une modification du projet Blazor Hybride pour faire Blazor dans Maui. Je n'ai pas vraiment regardé cette partie-là, parce que j'avoue que Maui, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, mes connaissances en tout cas. Mais en tout cas, il y a eu des démos là-dessus, quoi.
Ouais. Il y a même un petit bug, hein, dans la plateforme apparemment actuellement. C'est ce que j'ai vu dans la doc. Ils indiquent clairement qu'en fait, il y a, avec les modes de rendu, donc page et composants, il y a un bug. Donc il faut changer le mode de rendu pour que ça fonctionne avec Maui.
Ah oui.
Donc je n'ai pas compris la subtilité, mais quand j'ai lu la doc, j'étais un petit peu choqué. Je me suis dit, tiens, okay. On livre et il y a un bug. Bizarre.
Bah oui, de toute façon,
ça, c'est le logiciel. Hein.
Fallait livrer le 12 novembre. Donc,
Ouais, c'est pas leur habitude. Hein.
Non, c'est vrai.
Moi, je me suis revenu sur l'injection dans le constructeur. C'est un des premiers trucs qui m'avait marqué. Enfin, où j'étais perdu quand j'ai joué un peu avec Blazor. Je me disais, mince, pourquoi j'ai pas cette possibilité-là? Donc, il a fallu que j'aille voir la doc pour trouver qu'il fallait avoir cet attribut sur la partie HTML. Enfin. Donc c'est marrant qu'ils aient mis tant de temps à rajouter ce truc-là, quoi, parce que c'est quand même la base, quoi.
Mais je vais supposer qu'ils avaient d'autres choses à faire et que du coup, bon, ouais, à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va peut-être le mettre, mais comme disait Jérémy, bah, finalement, moi j'ai toujours eu l'habitude de mettre soit l'attribut, soit enfin l'attribut dans le code HTML ou code behind. Donc du coup, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Je sais pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment utilisé, mais peut-être qu'à un moment donné, je me dirais, bah, voilà, dans ce cas-là, ça peut avoir du sens. Mais...
Ouais. On avait les mêmes choses à une époque avec Unity. Hein.
Bien. Tu avais autre chose à rajouter?
Oui, tout à fait. Ah, il y a d'autres améliorations. Hein, ce côté, alors là, c'était vraiment côté Blazor. Par contre, côté ASP.NET, on va voir un changement, notamment sur OpenAPI. Du coup, qui rentre dans les packages de .NET 9 et Swagger qui sort. Du coup, il y a eu un remplacement. Donc, ça, voilà, faire attention. On avait l'habitude d'avoir le Swagger UI quand on lançait nos API. Bah, maintenant, il faudra le rajouter à la main et c'est resté sur. On a une application qui n'utilise plus Swagger. Qui va permettre alors, voilà, d'utiliser les dernières versions d'OpenUI, notamment, je crois, pour la partie Minimal API, je crois que c'était un peu mieux intégré. Et ça peut être aussi compatible AOT aussi. Je crois que c'est aussi pour ces changements-là. Les autres changements, Signalaire aussi, qui supporte maintenant l'AOT native. Qui va permettre d'améliorer vraiment le runtime. Et ils ont ajouté aussi une partie OpenTelemetry sur Signalaire pour permettre notamment avec Aspire d'avoir beaucoup plus de traces quand on fait, du Signalaire. Et puis dans le reste, ça va être des améliorations dans Visual Studio et notamment le debugger avec Blazor WebAssembly. Ils ont fait des améliorations là-dessus, ce qui va permettre de débugger plus facilement du WebAssembly, là où c'était pas toujours évident des fois en fonction du code où on pouvait ne pas détecter les points d'arrêt.
Ok.
Donc voilà ce que je peux en dire sur les belles améliorations tout de même.
C'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'on sur ce podcast, on a parlé assez rarement de Blazor et d'ASP.NET. Donc là, ça fait du bien d'avoir une vue de cet outil.
Faut que je vienne plus souvent, du coup.
Voilà, absolument. Oui. Bien, merci Clément. Et on va passer donc à notre Yoda préféré, donc Laurent, qui lui va nous parler du produit qui est un peu le vent en poupe en ce moment chez Microsoft et qui le pousse vraiment à toutes les conférences. C'est Microsoft Aspire. Aspire. Il y a eu quand même pas mal de nouveautés qui ont été présentées. Alors, sachant qu'il y aura un numéro spécial qu'on va enregistrer la semaine prochaine, où il y aura une présentation complète de Aspire. Donc là, le but, c'est juste de voir quelles sont les nouveautés. C'est pour ceux qui connaissent déjà.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Ouais. Donc ouais, Aspire 9, donc .NET Aspire 9, qui introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et des améliorations pour les développeurs, notamment le support de .NET 8 et de .NET 9. On sait tous que .NET 8, c'est un long-term support, donc il va être supporté plus longtemps que .NET 9, qui lui est un standard term support. Et donc, ça offre en fait la flexibilité aux développeurs de choisir la plateforme qui convient le mieux à leur projet. Donc, pour pouvoir l'utiliser, vous ne devrez pas passer de .NET 8 à .NET 9. Et donc, vous pouvez garder le choix d'avoir votre applicatif sur .NET 8 pour utiliser Aspire. Mmh. Il y a eu pas mal de simplifications dans tout ce qui est la configuration du développement. Moi, j'ai pas mal joué avec les bêta versions et tout ça, et même les versions d'avant, d'après, pardon. Et ça venait toujours avec ce qu'ils appellent un workload, et ça a toujours été un bazar à mettre à jour, à désinstaller et à enlever des choses qui traînaient sur ma machine avec cette histoire de workload. Et donc là, maintenant, la configuration de l'environnement de développement a été vachement simplifiée. On n'a plus besoin de ce workload et en fait, on va juste en utilisant un .NET SDK pouvoir déclarer un aspire.apphost.sdk avec la version dans son CS proche. Et ça va permettre de télécharger automatiquement tous les composants nécessaires via Nuget, ce qui est franchement pas mal. C'est aussi mieux pour tout ce qui est CI. Ça permet de justement utiliser Nuget pour mettre à jour ça. On n'a plus besoin de ce workload. Ça résout pas mal de problèmes, de conflits, de versionnements rencontrés dans les versions précédentes que j'ai vécues. Donc, ouais, c'est vrai que ça améliore beaucoup ces choses-là. Sinon, le modèle des projets, donc ce qu'on appelle les templates, ont été mis à jour et ils sont maintenant aussi dans des packages Nuget séparés, et ce qui rend la configuration du projet bien plus simple et directe. Donc là, on a juste besoin du .NET New, install Aspire Project Template et on peut spécifier la version 8 ou 9. D'accord. Donc ça, c'est des ajouts des simplifications qui sont bien intéressantes. Après, il y a eu un gros travail sur tout ce qui est le tableau de bord, le dashboard, et il y a eu beaucoup d'améliorations de ce côté-là. On est maintenant capable de gérer le cycle de vie des ressources qui sont orchestrées par le système Aspire. Donc, on a la possibilité d'arrêter, de démarrer ou de redémarrer les ressources sans redémarrer l'application Apphost, qui est le cœur du système, en fait. Ce qui est intéressant, c'est pour les ressources de type projet. Donc, ça, il y a différents types de ressources sur Aspire, par exemple un container, un projet, une application, un exe, ce genre de choses, quoi. Et si Aspire était, le debugger est attaché à la ressource, quand vous allez la redémarrer, le debugger va se réattacher automatiquement à la ressource. Donc ça, c'est pas mal pour le cycle de développement, pour pouvoir en fait relancer la ressource et pas être interrompu dans son cycle de débugage, quoi. Il y a eu pas mal d'améliorations dans tout ce qui est user experience. Avant, c'était assez difficile de regarder ce tableau de bord, ce dashboard sur un mobile. Maintenant, ça marche beaucoup mieux et il est plus réactif à différentes tailles d'écran. Et finalement, il y a beaucoup d'améliorations dans tout ce qui est affichage des détails des ressources. Par exemple, on va pouvoir marquer certaines propriétés de nos ressources comme sensibles. Elles seront masquées automatiquement. On pense bien entendu à des connexions, des usernames, des passwords, ce genre de choses. Tout ce qui est container, maintenant, les volumes des containers sont répertoriés dans les détails de la ressource. Donc, on va pouvoir voir si on a attaché un volume ou ce genre de choses. Il y a un ajout de la prise en charge des vérifications de l'état d'une partie de l'application. Donc, en anglais, ils appellent ça health check. Donc, il y a des possibilités dans ASP.NET, par exemple, de créer un health check pour l'applicatif et d'aller faire une requête sur cette... Sous ce endpoint et de vérifier que l'applicatif marche. Donc, ça, c'est intégré maintenant.
Ouais, moi, j'ai un slash ping.
Par exemple. Ouais. Qui va faire une query sur la base de données et comme ça, tu fais monter tes stats, c'est ça?
Voilà.
Ils ont rajouté aussi tout ce qui est les journaux de console. Le log, maintenant, est coloré et marche correctement. Donc, on peut avoir des couleurs là-dedans. C'est bien sympa. Tout ce qui est filtrage aussi de la télémétrie est amélioré avec une espèce de semi-automatique autocomplétion des valeurs existantes. Donc ça permet d'aller filtrer parce que c'est vrai que si on a quelques services, etc., les logs, ça peut aller vite avec la télémétrie. Oui. Et donc pouvoir filtrer tout ça, c'est bien intéressant. Il y a aussi une nouvelle possibilité qui est la possibilité de combiner les données de télémétrie de plusieurs ressources. Dans Aspire, en fait, on peut définir une ressource et lui donner un nombre de réplicas. Par exemple, on veut configurer du load balancing sur certaines ressources. Et bien là, on va pouvoir regrouper en fait, les logs de ces ressources les données de la télémétrie pour un groupe de ressources, donc un ensemble de réplicas. Quoi. Et une des nouveautés aussi dans ce domaine-là, du dashboard, c'est la prise en charge de la télémétrie dans le navigateur. Donc avant, on avait OpenTelemetry, on pouvait voir ce qui se passait dans ASP.NET Core, dans OpenAI, dans Redis, dans ce genre de choses. Et là, il y a un ajout de la partie, si on rajoute effectivement du JavaScript côté browser, on va pouvoir voir la télémétrie aussi côté browser. Dans le dashboard d'ASP.NET, non, .NET Aspire. Mmh. Donc ça, c'était pour le dashboard. Sinon, ils ont amélioré aussi ce qu'est le App Host, qui est le cœur du système, en fait, où on va définir notre application avec nos différentes ressources et qui va permettre de démarrer tout ce truc-là, toute notre application, qui va nous permettre aussi de générer un fichier pour, en fait, créer des scripts de déploiement, ce genre de choses. Donc, App Host, c'est quand même le cœur du système. Donc, ce qu'ils ont rajouté, c'est la possibilité d'attendre qu'une ressource soit démarrée pour démarrer une autre ressource. Ça, ce n'était pas possible avant. C'est bien platé, par exemple, quand on a des ressources qui sont longues à démarrer, par exemple, RabbitMQ est une ressource qui prend du temps. Donc, on ne veut pas démarrer son service qui dépend de RabbitMQ avant que RabbitMQ soit démarré. Donc ça, c'est une nouvelle possibilité. Ça utilise les health checks dont on a parlé avant, où quand il n'y a pas de health check sur un service, ça va attendre que le service est marqué comme état en exécution. Une autre chose qui est intéressante pour les services comme RabbitMQ qui prennent du temps, c'est ce qui est les containers persistants. Donc ça, c'est les containers Docker, par exemple. Au lieu de devoir redémarrer à chaque fois un container RabbitMQ, on peut le marquer comme persistant. Et donc, quand on va démarrer notre App Host, il va détecter ce container est déjà en train de tourner. Donc, je ne vais pas essayer de le redémarrer. Donc ça, c'est aussi intéressant quand on doit arrêter l'applicatif et développer dans un cycle court et pas devoir tout le temps redémarrer ces containers qui prennent du temps. Une autre nouveauté pour le App Host et qu'on voit aussi dans le dashboard, c'est la possibilité de configurer des commandes. Donc là, on peut écrire ses propres commandes. C'est ce qu'ils ont utilisé pour faire le start, stop et restart des services. Par exemple, on pourrait très bien penser à une commande pour réinitialiser une base de données. Imagine qu'on développe, on teste l'applicatif, on va rentrer des données dans la base de données, à un moment, on veut la réinitialiser, donc on peut écrire sa propre commande. Faire ce genre de choses et puis toutes les commandes qui nous paraissent nécessaires. Au niveau des conteneurs, il y a aussi un changement au niveau de la configuration réseau. Dans tous les conteneurs font partie d'un réseau commun qui s'appelle Default Dash, Inspire Network. Et en fait, ça va permettre justement que les containers, s'ils ont besoin de communiquer entre eux, ils puissent le faire en direct sans passer par la poste, quoi. Mmh. Et finalement, en fait, on a accès maintenant aussi à un modèle d'événement qui permet aux développeurs de s'intégrer au cycle de vie de l'application et des ressources. Donc, on va pouvoir savoir quand la ressource, elle démarre, attacher quelque chose, faire quelque chose. Quand ta ressource, oui, elle démarre ou elle s'arrête, ce genre de choses. Donc, il y a tout ce modèle d'événements. Et finalement, il y a plein de nouveautés dans tout ce qui est intégration. Une des nouveautés, c'est le support de Redis Insight, qui est une espèce d'application web qui permet de manager et de voir des données dans Redis, qui est assez sympa. Il y a une nouvelle intégration d'OpenAI, il y en avait déjà une avant. Mais maintenant, la nouvelle utilise la librairie .NET officielle OpenAI, qui a été réalisée il y a 2 mois, je ne sais plus maintenant.
Ouais. J'ai joué avec là, cet après-midi, il y a la 2.0 bêta qui est encore là.
Sinon, il y a avant pour l'intégration MongoDB, on ne pouvait pas spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, si je me rappelle bien, et c'était des choses un peu random. Maintenant, on peut le faire. Au niveau Azure aussi, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a des nouvelles API pour Azure SQL, PostgreSQL et Redis Update. Et toutes ces intégrations-là, elles utilisent maintenant par défaut le Microsoft Entra ID, dont Mitch nous a parlé il y a quelque temps. Une des grosses nouveautés aussi côté Azure, c'est le support des Azure Functions, qui est encore en preview, mais qui a l'air de marcher relativement bien avec un émulateur en local. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une ressource dans le cloud. Ça va fonctionner sur sa machine en ayant l'émulateur qui est sur sa machine.
Tu veux me dire si je me trompe, mais je crois que ça ne fonctionne pas pour les Durable Functions.
Alors ça, je ne saurais pas dire.
Je crois qu'il y a une petite subtilité sur la...
C'est possible, ouais.
Oui, parce que tu as un orchestrateur qui tourne derrière et qui va gérer toutes les fonctions durables, donc peut-être moins facile à mettre dans un émulateur, quoi.
Ouais.
OK. Et sinon, une des dernières nouveautés côté Azure, c'est la personnalisation des Azure Container Apps. Moi, c'est un des trucs qui m'avait le premier bluffé dans tout ce qui était Aspire quand je jouais avec la bêta, c'était de pouvoir en fait avoir un petit applicatif développé, le pousser sur GitHub, avoir une GitHub Action qui déploie ça dans Azure Container Apps. Et j'ai eu besoin de rien configurer. Et donc, c'est assez bluffant. Donc là, on peut personnaliser les Azure Container Apps sans utiliser Bicep, qui est l'espèce de script qu'ils ont créé pour justement faire de l'infrastructure as code. Enfin, un script ou YAML, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Sois pas péjoratif comme ça.
Non, mais je sais pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas allés sur du code directement. Et puis voilà.
Ouais.
Et par exemple, ça va servir à configurer. Par exemple, on parlait des répliques avant. Là, je vais pouvoir dire pour mon Azure Container Apps, pour ce service, je veux que j'ai 3 réplicas. Voilà. Mm-hmm. Sinon, en dehors de toutes ces nouvelles qui viennent de chez Microsoft, il y a aussi Amazon avec AWS qui a rajouté la prise en charge de .NET Aspire 9 avec la prise en charge de AWS CDK, qui est en fait l'espèce de pendant de ce que fait Pulumi, infrastructure as code, vraiment as code, donc on écrit du C Sharp. Il y a aussi un peu quelque chose comme ça qui existe côté .NET, il me semble, et donc aussi de AWS CloudFormation. Donc ça se développe aussi de pas mal côté Amazon, quoi.
D'accord. Oui, c'est pas.
Voilà.
C'est plus, oui, ils pourront clamer au effort que c'est plus Microsoft 100%, quoi.
Ça n'est pas. En fait, ça n'est pas depuis le début. Hein. Il y avait aussi Aspirate, qui a été fait par un développeur externe qui permet de déployer dans Kubernetes, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment pas que Azure. Hein.
Mm-hmm. Ok.
Et il y a aussi c'est un truc que je n'ai pas noté, mais qui me revient maintenant à l'esprit. Il y a un .NET Aspire Community, je ne sais plus comment, Toolkit ou un truc comme ça qu'ils appellent, ouais. Où il y a d'autres intégrations, comme des intégrations. Il y avait déjà des intégrations pour des projets Python. Là-dedans, il y a des trucs pour Java, pour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rust, et puis d'autres extensions qui sont supportées et développées par la communauté et pas par Microsoft, mais qui permettent de regrouper en fait cette information-là pour que ça soit pas on n'ait pas à chercher sur de différents sites, quoi.
Ouais, qu'il n'y ait pas un vilain petit canard au sein de l'application où on puisse aussi récupérer la télémétrie de ce genre de choses, quoi. Ok, petite question, est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé en production Aspire, ou pour l'instant c'est uniquement en joujou?
Non, moi j'ai beaucoup joué avec, mais pas en production, puisque je fais du fat client.
Ouais.
J'avais posé la même question, la même question, j'attendais. J'ai une question que je me pose depuis un an en fait, et là avec la nouvelle version, est-ce que vraiment c'est une version qui va... nous permettre de l'utiliser, ou est-ce qu'au final c'est plus encore pour des projets particuliers? J'ai toujours pas la réponse à cette
moi je recoupe beaucoup avec d'autres choses que je regardais, enfin que je regarde encore, mais que je suis par exemple Dapper. Dapper, c'était franchement difficile de développer avec, parce que il faut lancer des commandes, attacher le debugger et tout ça, c'était vraiment pas évident. Avec Aspire, ça marche super bien. Pouvoir déployer ce genre d'applicatif aussi, et de pouvoir le créer localement, c'est super intéressant. Moi, le truc que j'avais l'espoir de pouvoir faire au travail, où on aurait utilisé Aspire, c'était justement, on était censé avoir une authentification dans notre outil, et l'idée c'était de lancer, maintenant le nom échappe, le système open source d'authentification, pas de Durandy, mais... J'ai Redis qui vient, mais c'est pas Redis du tout. Enfin bon, peu importe.
Keycloak.
Keycloak, ouais, c'est ça. Keycloak. Ah, merci, Jérémy. Et de pouvoir utiliser .NET Aspire pour lancer Keycloak avec sa configuration et d'avoir notre applicatif WPF qui est démarré, qui permet de s'intégrer à ça, quoi. Donc ça, c'était une des idées, mais non, je n'ai pas encore utilisé en prod.
D'accord. Mais... Alors, comme disent les influenceurs, vous mettez dans les commentaires si vous l'utilisez.
Exactement.
Bien, bah merci Laurent. Pardon.
Plaisir.
Et donc, pour finir, aujourd'hui, et demain, on continuera avec Olivier et Simon sur toute la partie interface lourde avec MAUI et WPF et WinUI. On va se poser la question avec Jérémy sur comment on a une nouvelle version dans .NET 9. Faut-il passer à .NET 9 ou est-ce qu'on reste sur la version LTS de .NET 8? Est-ce que tu as une réponse?
Alors, oui. Il dit déjà oui, Laurent.
Il dit oui, bon, à la question.
Je vais dire non pour lui faire plaisir.
Comme ça, on ne surprend pas.
On sait qu'on va dire oui. Non, mais en fait, quand tu poses la question, si tu veux, moi, c'est une question, effectivement, je pose un peu, je me pose un peu tous les ans. Tu sais, le gars qui est un peu maso, il se tape 20 ans de .NET et il dit, est-ce que je continue à faire du .NET demain? Moi, je serais tenté de dire que si demain, vous vous dites que vous faites encore du .NET, que l'année prochaine, vous faites encore du .NET et que vous avez des applications qui doivent rester sur .NET, allez, la question, elle se pose pas vraiment, non? Je sais pas, enfin, on a tous des applications, on a tous souffert le fait d'avoir une application qui traînait dans un coin, et à un moment, on se dit, je vais changer la techno, je vais tout réécrire, parce que finalement, on n'a pas eu le courage de migrer quand l'occasion s'est présentée. Aujourd'hui, moi, par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir, il y a une question qui est toute bête, c'est est-ce qu'on peut passer, si par exemple on emploie les technos dont on a parlé juste avant, de ces nouveautés? Je suis pas sûr que demain, on aura le choix. Je vais dire un truc bête, mais dans .NET, on a quand même beaucoup de choses qui ont été liées à l'intelligence artificielle. Le support, entre autres, de tout ce qui est Tensor et autres. La possibilité d'utiliser un certain nombre de librairies pour faire l'intelligence artificielle. On sait que ces choses-là, elles vont évoluer vite. Si demain, on veut en profiter et qu'on a envie d'en profiter vite, il va falloir inévitablement que notre plateforme, elle évolue vite. Donc moi, c'est un autre argument. Ensuite, il y a une chose moi que j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de la part des développeurs et qui me fait encore de la peine aujourd'hui. Visual Studio. Bon, on n'est pas tous sous Visual Studio. C'est sûr, Laurent, il est là pour le prouver. On a un outillage. Moi, les développeurs, quand j'entends dire « Ouais, on va attendre que ce soit stable », j'ai envie de dire « Mais de toute façon, vous avez déjà installé les outils, vous avez déjà mis à jour votre Visual Studio, vous avez déjà dit .NET 9 qui est déployé sur votre poste. En fait, vous avez déjà mis le pied dedans. Hein, donc, arrêtons de dire qu'on va attendre pour éviter d'essuyer les plates de Visual Studio. Je ne sais pas si les gens ont fait attention. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre. C'était le 12, si je dis pas de bêtises, qu'on nous a livré .NET 9. On est déjà à la troisième version depuis de Visual Studio quand même. Hein. On a une 17, 12, 2, je crois, cette
Oui,
semaine.
et aujourd'hui, ouais, ou hier, je sais plus, ouais.
Donc c'est quand même super actif au niveau de l'IDE. Donc je pense que l'IDE n'est plus un frein. Faut se faire l'idée. Pour le déploiement de .NET 9, ah, tu as Laurent.
Laurent, tu voulais dire quelque chose?
T'as
Ouais,
aussi,
je
il va nous
vois
dire qu'il y a un
comment.
certain outil qui permet de faire du .NET 9, j'en suis sûr. Je m'en déjà arrivé.
Si tu dis Rider, t'es exclu de la conversation.
Ouais, mais il a raison. Non, mais Rider aussi supporte.
Non, je voulais ju juste dire qu'on parle des IDE et c'est la première fois en fait que l'autre IDE, on va le nommer, a été réalisé le jour d'après où .NET a été réalisé. Et
Moi
moi, c'est vrai
aussi.
que comme ça fait quelques années que notre équipe elle tourne avec Rider, on attendait tout le temps un mois, quasiment un mois, qu'on était prêt avec .NET 9, mais on attendait que les outils soient à jour pour fait merger la nouvelle version. Et là, on a pu le faire. Si quelqu'un dans l'équipe, comme je suis en vacances cette semaine, si quelqu'un dans l'équipe a eu le temps de merger les pull requests, et ben on est sur .NET 9, quoi.
Non,
Avec Rider.
la seule chose, ça a été, moi j'ai eu, j'ai pas eu des soucis, j'ai eu juste des warnings, c'est avec Azure DevOps au moment du CI/CD, au moment de la compilation, il y avait un warning justement sur la version de Visual Studio qui était utilisée alors que ça compilait très bien quoi. Ouais, c'est 2 jours après, il n'y avait plus rien quoi, comme message.
Bon, les seuls soucis, enfin soucis, franchement, c'est la mise à jour d'une version à l'autre qui a été la plus simple. La seule chose qui a été un peu plus difficile, on va dire, c'est que maintenant, en fait, avec les nuggets, ils vont chercher les problèmes de sécurité, non pas dans la dépendance qu'on a, mais aussi dans les dépendances des dépendances qu'on a. Et là, j'avais quelques dépendances qui n'étaient pas à jour sur certains composants qu'on utilisait. Donc, il fallait attendre que la dépendance soit, enfin, que notre première dépendance soit mise à jour, ou alors utiliser des nouvelles versions des packages, quoi. Ce qu'on a dû faire pour certains
Sachant
packages.
que moi j'ai eu la même problématique que toi, mais en fait sur des applicatifs .NET Framework. Bon, ça va choquer hein, quand on parle de .NET 9, dire on a la problématique avec .NET Framework, mais le tooling en fait a appliqué la même règle pour les projets non SDK. Ce qui est très rigolo, c'est que les projets .NET Framework qui sont des projets de format SDK n'ont pas le problème. C'est aller chercher à comprendre la logique dans le truc, c'est pour essayer de s'assurer que les gens qui sont encore sur des vieux formats de projet, en termes de sécurité, ne soient pas trop mal. Moi, la seule chose que je regrette au niveau du tooling, qui est pas encore prêt, mais qui était déjà pas prêt pour .NET 8, c'est que ce que tu viens de dire, Laurent, en fait, ça pose un problème. C'est qu'on n'a pas cette notion d'audit qu'on a quand on fait du NPM, par exemple. On peut dire, je fais des montées de version à mes dépendances indirectes. C'est pas embarqué dans notre fichier qui définit nos dépendances. Par contre, sur le poste du développeur, il se retrouve dans une situation où il n'a que des librairies safe. Aujourd'hui, dans .NET, si on veut le faire, on est obligé de dire explicitement, je prends telle ou telle version de ma librairie, et il faut penser à mettre un petit commentaire à côté dans son fichier de projet pour dire, attention, demain, bien penser à retirer cette référence explicite à cette dépendance. Elle est pas utile qu'on l'appelle explicitement. C'est un truc qui a été demandé à plusieurs reprises à Microsoft. Je ne sais pas, pour l'instant, ils ne bougent pas beaucoup sur le sujet. Ça serait sympa qu'on puisse faire ce genre de choses. Et puis, c'est aussi demandé par les maintenants de package nuggets. Parce que des fois, ils sont obligés de pousser eux-mêmes des versions de leur package, juste pour s'assurer que leurs utilisateurs n'aient pas des dépendances indirectes qui soient faillibles. C'est un petit peu. Un peu
Bon,
fermé.
c'est un peu délicat hein, parce que tu changer une version, tu ne sais pas en fait quel impact peut avoir ton third party quand toi tu mets à jour une de ces dépendances, quoi. Puisque toi, tu n'as pas ces tests unitaires ou ces choses-là, tu ne sais pas trop ce que ça peut faire. Donc tu as intérêt à bien tester quand même, genre de truc.
Oui, oui. C'est pour ça que ça serait bien qu'on ait justement cette fonctionnalité pour au moins nous dire je vais le monter temporairement, qu'on puisse le voir. Juste qu'on puisse le voir, parce que je pense que ça aiderait justement à préparer l'avenir et à ne pas se faire avoir sur, sur des cas bêtes. Hein. Moi, ce sujet, par exemple, de la migration vers .NET 9, c'est un sujet que j'ai rencontré avant sur des migrations un petit peu ratées, où il y a un moment, on avait monté et enfin indiqué dans nos projets qu'on avait des dépendances. Après qu'on ait fait 2-3 migrations, les dépendances, elles étaient plus utiles. Elles étaient plus utiles, ouais. Parce que c'était la dépendance d'un autre copain. C'était entre autres le cas quand on était sur .NET Framework sans les packages références. On avait beaucoup de dépendances qui étaient là, qui avaient été oubliées. Je ne vais pas dire orphelines, mais presque.
Presque, ouais.
Ouais. Enfin, bon, ouais.
Moi, ça, c'est vrai que quand on fait des montées de versions comme ça, ce que j'utilise, c'est je regarde toujours nos dépendances. Et déjà, on demande de ne pas en rajouter comme ça n'importe comment, parce que c'est quand même pas rien de rajouter une dépendance. Et puis, effectivement, quand on peut en enlever, on regarde en fait si c'est encore utilisé quand on fait des montées de versions comme ça, quoi.
Ouais, bah alors, Laurent, il faut aussi que tu rappelles un peu ton contexte, parce que moi, je le comprends, je suis un peu le même. Et on travaille sur du client d'applicatif Windows. Donc, on n'est pas sur du web, les gens ne se posent pas les mêmes contraintes. Et c'est vrai que, enfin, moi, je déploie encore du ClickOnce. Donc, j'ai la contrainte du volume du ClickOnce. C'est quelque chose avec lequel il faut effectivement savoir jouer, et les dépendances, on surveille leur poids. Ça fait partie du jeu. On fait un petit peu le médecin, petite cure d'amagrissement, vous en êtes où? C'est bien, c'est pas bien.
189 mégas pour moi.
Ouais, ça fait mal.
Ouais, ça râle.
Ouais, je suis en 80.
Je dis plus rien, moi. Je dis plus rien.
Ouais. À la question d'origine, qui est de est-ce qu'on doit mettre à jour ou pas, moi je pense que, bien sûr, ça dépend du contexte, comme d'habitude. Mais quand on voit le travail sur les performances, alors, c'est vrai que peut-être pas tous les applicatifs sont impactés par ces améliorations de performance. Moi, c'est vrai que même dans mon applicatif qui n'est pas... Qui peut être lourd en ressources, ce genre de choses, on arrive à voir certaines améliorations. Donc, j'imagine aussi les gens qui ont des applicatifs web qui sont hostés, c'est une histoire de coût aussi derrière. Je pense que c'est intéressant de faire ce travail de migration et de voir en fait quel impact, quel coût on peut sauver avec ça.
Le travail de migration, il n'est pas anodin sur les applicatifs. Hein. On va comprendre le contexte hein, du client Windows, mais moi j'avais posé la question au dev lead sur InfraGCX il y a quelques années, et je lui avais demandé telle nouvelle version des composants, librairie WPF et librairie WinForm, en termes de perf, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le neuf, les perfs elles ont l'air sympas, pourquoi elles sont sympas? Et on m'avait répondu très très poliment et très simplement: on n'a rien fait, en fait, on est juste passé à la version suivante de .NET. J'ai trouvé ça super sympa, super réaliste.
Honnête.
Dire, ah ouais, ok, bon, bah on va le faire aussi, quoi. Non mais c'est un argument, ça, là on parlait du tooling, moi j'entends une chose que j'entends très souvent, c'est la peur d'essuyer les plâtres. .NET 9, c'est tout beau, c'est tout neuf, certes, mais ils ont mis quelques mois là, à la fin de l'été, c'était stabilisation. C'est pour ça qu'on a la surprise quand on parle de Blazor, de dire tiens, c'est bizarre, on a dit qu'il y a un bug qui est connu dans la version qui est livrée. On n'est pas spécialement habitué maintenant, quand on parle de .NET, à dire qu'on va essuyer des plâtres. Quand on avait les versions .NET Framework, ou avant .NET Core, on va dire 3.1, effectivement, de temps en temps, on essuyait les plâtres. Mais maintenant, les migrations, comme l'a dit Laurent, enfin, lui, c'était le plus facile qu'il a eu. Moi, je trouve que ça fait quelques années, peut-être depuis le passage à .NET 5, je trouve qu'à chaque fois, ça se passe en douceur.
Ouais. Bah, il faut remplacer le 8 par un 9, quoi.
Ouais, il faut remplacer le 8 par un 9, on met sur ses packages Nuggets. Moi, une chose qui fait que j'encourage les gens à faire leur migration là, quand je dis là, c'est dans les prochains mois, il n'y a pas d'urgence non plus, elle est simple, c'est quand vous faites votre migration. ça se passe bien. Vous avez une petite liste de warning. Vous l'épurez. Vous l'épurez, vous faites ça le premier mois. Des fois, ça peut se faire en 2-3 jours. Hein. Puis, des fois, ça va très très vite. Il n'y aura pas de galère. Par contre, vous revenez là-dessus. Donc, imaginons dans un an ou dans 2 ans, il y aura les warnings de .NET 9. Il y aura les warnings de .NET 10. Il y aura peut-être les warnings de .NET 11. Mmh. Et dans le tas, il y en aura peut-être même que vous n'aurez pas vu et qui sont devenus des breaking changes. Moi, très honnêtement, je préfère faire une petite dose de travail un petit peu tous les ans. Pourquoi je préfère le faire tous les ans? Excuse-moi.
Complètement d'accord.
Ouais. Ouais, moi, par rapport à ça, en fait, moi, mon argument ultime, c'est un argument que les gens ont du mal à comprendre. Chez Microsoft, on nous a dit, vous allez avoir un .NET stable en version LTS, il va durer 3 ans. On va vous dire, en fait, une version intermédiaire, elles feront 1 an et demi. C'est pas vrai. Il faut que ça rentre dans la tête des gens. Aujourd'hui, quand on vous livre une version de .NET, il y a deux types de supports. Il y a un support qui va couvrir les 6 derniers mois de vie de ce .NET. Et ce support est ce qu'on appelle le support type maintenance. C'est un support durant lequel vous n'aurez que des patchs de sécurité. Et exclusivement des patchs de sécurité. Tout ce qui s'est passé avant pourra contenir des correctifs, mais à partir du moment où vous entrez dans les 6 derniers mois de vie d'un .NET, il faut dire le mot vraiment que ça fait mal, dès qu'on est dans les 6 derniers mois, en fait, s'il y a un bug, un beau, un gros, un truc que personne ne peut éviter, bon, bah, Microsoft, normalement, n'est censé rien faire. Bon, ils nous ont dit pareil pour Windows XP, ils ont fait plein de choses, on est d'accord, mais là, on parle de .NET, donc c'est pas les mêmes équipes, c'est pas le même fonctionnement, donc je pense qu'il faut être réaliste, quand vous avez une version de .NET, il faut oublier les 6 derniers mois. Et si vous regardez, maintenant avec le côté un petit peu planning, d'ailleurs Microsoft met une très belle page pour expliquer un petit peu le planning des évolutions de .NET, vous rendrez compte que ben, ces 6 derniers mois, ça fait qu'à chaque fois que vous arrivez au mois de mai, en fait, au mois de mai, il faut déjà se débarrasser des versions qui rentrent dans ce support de maintenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de .NET, c'est le plus simple. Hein. Bon, ce que je vous conseille à faire, c'est même pas se poser la question si c'est une LTS ou pas. Alors, ça va faire moche pour les gens qui sont sur .NET 8 parce qu'ils vont dire ah, il est fou, il faut à tout prix passer au .NET 9. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que si vous habituez tous les ans à faire ce petit travail sur les premiers mois de l'année, avant mai, vous ne vous poserez plus jamais de questions. Ça sera un cycle, ça sera devenu une habitude. Moi, je le fais depuis .NET 5. Et c'est vrai que il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais oublié un projet dans un coin. Qu'est-ce que j'ai souffert? Ouais. Qu'est-ce que j'ai souffert avec cette migration? J'y ai passé, mais beaucoup plus de temps que j'avais prévu. J'y ai passé 2-3 heures pour pas grand-chose, sachant que c'est une migration purement technique. C'était une petite application, c'était trois fois rien. C'est un CV sur une application Android avec du Xamarin. Donc forcément, vous oubliez ça pendant 3-4 ans dans un coin, avec les évolutions qu'il y a eu sur Xamarin après pour passer à MAUI. Je me suis arrêté avec Xamarin, hein. On est d'accord, hein, c'est la migration MAUI, ouf, c'est la prochaine étape, mais j'aurais dû la faire il y a un an, la migration MAUI. C'est mon erreur. Donc je donne l'exemple aussi du gars qui a payé, hein. Donc j'ai payé cher, c'était un projet personnel, voilà, donc je le mets dans son coin, il va passer à MAUI là cette année, parce que j'ai plus le choix, faut arrêter les frais, ça va me coûter trop de temps, j'ai plus de temps en ce moment. Donc voilà, c'est typiquement, si en tant que développeur, vous vous habituez durant les premiers mois de l'année à faire vos migrations, déjà, vous allez monter en compétences très vite. Hein. Les gens qui ont fait de la migration comprennent déjà beaucoup plus vite comment fonctionnent les choses, évoluent beaucoup plus vite, ne se posent même plus de questions, en fait, finalement, quand arrive le nouveau .NET. Profitent des nouveautés dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, surtout, pour moi, ce qui est super important, c'est que vous vivez la migration en même temps que le reste de la communauté. Et quand je dis ça, j'ai une chose qui est un peu obscure. C'est quand vous allez avoir un problème, vous pourrez poser des questions sur Internet, il y a des gens qui vont vous répondre, parce qu'ils sont dessus. Moi, j'ai eu le cas hier, un truc bête. J'ai pris un site web avec du Entity Framework, j'ai fait une migration .NET 9. C'est vrai que clé en main, ça m'a pris 5 minutes. Et puis, arrivé au moment de l'exécution des tests unitaires, j'ai commencé à avoir un Entity Framework qui s'est mis à brailler de tous les côtés. Un truc pas possible. Je suis allé sur GitHub. Ah bah, ni une ni deux, je suis tombé sur effectivement une issue qui a été ouverte, qui était... Les gens n'arrivaient pas à reproduire, il n'y avait personne pour reproduire, donc moi je me tiens, je vais fonder mon repo, parce qu'en plus il est ouvert, donc ça va aller vite. Et en continuant ma petite recherche sur le GitHub, j'ai découvert qu'en fait, la correction était déjà en cours, et qu'il y avait un pull request. Hier soir, je me suis abonné au pull request, pour voir comment il allait évoluer, s'il était accepté ou pas. Ce matin, bah, j'ai une petite notification, comme quoi, bah, ce soir, je vais pouvoir reprendre mon projet, parce que ça a déjà été poussé, quoi.
Ok, bien. Eh bien, écoutez, ouais. Donc, si je résume, donc, vous avez 6 mois pour passer à .NET 9.
Ouais, c'est ça. Ah, un peu moins maintenant, hein. Un peu moins, mais c'est pas ça, quoi. Ouais. Si vous voulez comprendre, surtout, pas vous faire avoir.
Ok, bon, mais écoutez, je vous remercie, et puis on va passer à la suite avec la partie UI, et messieurs, je vous laisse pour rejoindre vos deux petits camarades. Ciao.
Ciao. Alors.